Rebonjour encore à chacun, à toutes, à tous. Alors en effet, je m'appelle Ebi Radhakrishnan. Pour les visiteurs, je suis le premier, comme vous, à assister dans ce culte. Et pour ceux qui sont impliqués dans cette œuvre, je crois que c'est la première fois que je fais un culte d'adoration avec vous. Sachant que je viens de la région parisienne, de l'église baptiste de Saint-Denis. Pour ceux qui connaissent cette église, c'est dans le banlieue nord de Paris. Sachant que nous sommes en pleine implantation avec un SMH, une autre œuvre, Dieu voulant, avec un missionnaire responsable de cette œuvre, dans ce qu'on appelle la région du Grand Roissy. Donc vous avez entendu parler de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Donc c'est ça, la région où il y a un travail qui est commencé. Et je ne sais pas la première fois par contre que je viens dans ces lieux, parce qu'en 2007 j'étais arrivé ici lors d'un voyage découverte, et c'est là que j'ai eu l'occasion de voir un peu cette œuvre de grâce que Dieu a commencé ici. Et ça fait partie d'un voyage où on découvre les patrimoines spirituels en France, donc forcément des lieux dits religieux, mais surtout aussi des lieux où des vraies églises de Jésus-Christ sont implantés, et notamment on a eu l'occasion de visiter ici. Et depuis 2011 je suis aussi étudiant dans l'institut qui est juste situé au-dessus, étudiant à distance. Voilà à peu près pour ce qui me concerne. Je travaillais dans les domaines de télécommunication, maintenant je suis dans le domaine des informatiques aussi. Et puis Greg, il m'avait demandé il y a quelques mois à faire un stage pastoral si c'était possible. Donc je dois avouer que j'avais peur au début. J'avais peur malgré la joie et la confiance que le frère m'a démontré, que votre pasteur et notre pasteur Greg m'a démontré. Et puis le Seigneur, il a travaillé parce que je devais faire pendant 3 mois. Et puis on a eu une discussion même avec Nils et aussi. Et finalement, on s'est convenu pour que je puisse participer un peu dans le service pour 1 mois, pour tout le mois de septembre parmi vous. Et puis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, c'est vraiment la providence de Dieu qui donne tout, et pour établir aussi cette église. Certainement vous connaissez mieux que moi l'histoire de cette église, que le Seigneur par sa grâce, il implante à travers ses hommes, à travers ses serviteurs. Et surtout par l'évangile en laquelle vous avez cru. Certainement je désire faire davantage connaissance avec vous, donc... soyez patient si j'ai du mal à rappeler votre prénom. Donc si je vous redemande une deuxième fois, voire même une troisième fois, du moins on aura 1 mois pour faire connaissance au moins. Pendant cette période, j'aimerais vraiment être édifié, être en communion avec vous chacun. Sans tarder, je vous propose cette deuxième lettre de Paul à Timothée de Lystre. En fait, le jour où j'ai accepté pour ce stage, ce passage dont j'étudiais, j'entreprenais une étude même pour personnellement, m'a paru très à propos pour conduire sur cette étude pendant les dimanches. Donc c'est dans la deuxième lettre de Paul de Tarse à Timothée que nous allons pouvoir nous concentrer quelques temps durant ces dimanches. Le but de cette série d'études, c'est que puisque la plupart d'entre nous sont issus des nations, déjà je vais donner ce vocabulaire que nous pouvons utiliser. Et nous savons que l'apôtre Paul de Tarse, c'est l'apôtre des nations, comme c'est écrit, comme il se dit lui-même dans Galates chapitre 2, 8. Celui qui a appelé Pierre pour être l'apôtre des circoncis m'a appelé aussi parmi les incirconcis, parmi ceux des nations. Donc j'utiliserai souvent la terminologie notre apôtre, bien sûr, cela montre qu'il est quelqu'un qui a été appelé pour prêcher l'évangile dans les nations, parmi les nations. Et l'une des raisons, ma motivation pour étudier cette lettre, c'est qu'en songeant à la vie de notre apôtre dans cette phase finale, nous pouvons comprendre le cœur de Dieu pour son peuple, pour l'Église. La grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Nous allons étudier sur la foi sincère des chrétiens et la transmission de la foi chrétienne. Surtout l'amour insondable du Christ aussi. Cela se révèle d'une manière particulière par un père spirituel qui communique à son fils spirituel. C'est Paul qui va communiquer à Timothée au crépuscule de sa vie. Probablement c'est la dernière lettre que Paul écrit étant dans une prison. Et cela nous montre aussi l'amour de Dieu le Père à son fils. On ressent cette affection qui était entre le Père et le Fils aussi à travers Paul vers Timothée. Et c'est une lettre aussi pleine d'émotions, et c'est émouvant. Elle est remplie de puissance, elle est remplie d'affection, tout à son fils spirituel, Timothée. Que Paul, il l'appelle fils spirituel parce que c'est quelque part le mentor, celui qui l'a conduit, celui qui l'a initié dans l'œuvre. Et c'est motivant pour un jeune pasteur d'avoir un homme comme Paul. Mon deuxième but, c'est de transmettre Dieu voulant aussi à travers ses études, notamment, donc on va faire les dimanches. Quel est le plan de Dieu pour son Église, pour nous qui sommes dans cette dispensation de l'Église, dans la dispensation de la grâce de Dieu? Voilà les deux buts que je me suis fixé. Donc à l'évidence, ça va être une synthèse, tout ce que nous allons pouvoir étudier ces dimanches. Ça va s'appeler un survol, comme on dit, parce qu'on n'aura pas, au bout de 3 ou 4 études, couvrir tout cette épître. Mais bien sûr, cela va nous introduire pour pouvoir étudier chacun dans nos cultes personnels, dans notre culte de famille, dans notre méditation personnelle, pour y revenir plus tard dans la semaine. Bien sûr, la flamme de l'apôtre Paul à travers qui l'évangile de Dieu se répand dans les contrées de l'Europe, parce que l'Europe était la première nation, si on peut dire, en dehors d'Israël, après l'Asie mineure bien sûr, où l'évangile a pénétré par Paul. Et c'est en cet évangile qui se répand en fin de la carrière de Paul à travers cette lettre. Elle révèle encore plus de puissance quand nous lisons. Et comme nous avons chanté « Que dans mon âme ta sainte flamme ravive » dans cette lettre, c'est la flamme qui est en Timothée que l'apôtre Paul va raviver. Il va ranimer dans cette lettre pour courir dans cette course renouvelée par la force de Dieu. Et je suis certain que l'amour de chacun de nous pour l'avènement du Seigneur sera aussi ranimé selon cette flamme du don de Dieu que nous avons reçu de Dieu. Timothée a aussi reçu ce don de Dieu par l'imposition des mains de l'apôtre Paul. Nous lisons dans le verset 6 de 2 Timothée 1, nous lisons ainsi: « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Alors tout ça pour introduire un peu cette lettre, certainement vous avez lu pour certains, et d'autres ça sera probablement peut-être une découverte, mais nous allons apprendre tous ensemble à pouvoir méditer davantage la parole de Dieu à travers cette épître. Quand j'ai entrepris personnellement cette étude, je l'ai mis en 10 sections, 10 études, que je vais vous donner les titres. Bien sûr, si vous avez besoin de ces notes, je peux vous communiquer aussi par email pour ceux qui en ont. Sachant que les 5e et les 6e études, probablement un certain frère Bernard Smag voulait bien prendre le relais de ces études après les 4 qu'on va faire ensemble. Donc Dieu voulant, même si je serai parti, il y aura probablement le frère Bernard qui était intéressé à entreprendre. Donc je vous donne les 10 titres de cette étude. Donc la première aujourd'hui, c'est la sainte motivation pour l'évangile. Et tous ces 10 titres, je vais mettre dans une série que j'appelle le sprint final, puisque Paul a l'air d'être un coureur. Je ne sais pas si physiquement il faisait beaucoup de jogging, beaucoup de courses, mais en tout cas il parle dans cette lettre de cette course. Donc je l'appelle le sprint final, demeurer fidèle jusqu'aux dernières épreuves, demeurer fidèle au sein des dernières épreuves. Donc la première étude que j'intitule, c'est la sainte motivation pour l'évangile. La deuxième, dimanche après-midi, la semaine prochaine, l'apostolat de Paul pour l'évangile du Christ, sa compréhension de la grâce. Nous allons nous arrêter aussi sur cette notion de l'apôtre Paul. Troisième étude, le 23 septembre, la formation pour l'enseignement et la transmission de l'enseignement. Et l'après-midi même, le 23, Les passions de la jeunesse n'ont pas à résister sur place, mais à toujours fuir. Le cinquième et sixième, ça sera probablement le frère Bernard qui va faire. Donc il m'avait demandé les titres aussi, puisque j'ai envoyé ses notes au frère. Et ça sera « Demeure dans les choses apprises et reconnues certaines ». Sixième étude, « Toi, sois sobre, travailleur souffrant dans ton sprint final ». Septième étude, « Vaillant combattant et sprinteur, achève finalement, fidèlement ta glorieuse course ». Et la huitième étude, « L'inspiration verbale de toute l'écriture, le manteau, les livres et surtout les parchemins ». Même ces mots sont inspirés par Dieu, quand l'apôtre Paul l'a écrit. Neuvième étude, l'aide et la force du Seigneur pour la prédication. Dixième étude, on peut dire, cher sprinteur, la couronne finale et la délivrance par le Seigneur te sont réservées. Voilà à peu près les 10 études. Donc avant de commencer cette première étude, j'aimerais qu'on prie très rapidement ensemble. Seigneur, nous prions que tu nous donnes toute la concentration nécessaire pendant cette matinée avec cette église et que nous puissions comprendre quelle est ta parole et quel est ton plan, ton conseil pour nous à travers cette épître. Que tu nous guides, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, cette étude peut être fort utile à nous dès lors que nous sommes attachés à un croyant. Donc, j'espère que chacun d'entre vous, en tant que parent, frère ou sœur, ou en tant que voisin, en tant qu'un pasteur, un stagiaire ou un diacre, un conseiller ou une conseillère spirituelle, vous êtes attaché avec quelqu'un avec qui vous nouez une relation en Jésus-Christ. C'est peut-être un conjoint aussi que vous voulez édifier dans le Seigneur Jésus-Christ afin de les motiver dans la marche avec Dieu. C'est peut-être une amie ou un ami. Et donc cette lettre va aider à notre esprit à appréhender et à concevoir combien un vieillard qui touche à la fin de sa vie continue à ranimer la flamme d'un jeune fils spirituel. Certainement, nous avons tous connu un baume à notre cœur quand quelqu'un s'est investi en nous pour une parole de motivation qu'ils nous ont donnée pendant un jour ou une phase de notre vie, une parole d'encouragement, de restauration, de conseil, de suggestion pour édifier à se relever et aussi à relever les autres. Donc, vous avez certainement connu comme moi un baume dans le cœur quand une personne s'est intéressée à vous. Nous avons tous goûté cela quand nous avons été bénéficiaires. Et donc, en lisant cette lettre, nous pouvons être plutôt ceux qui encouragent, qui motivent aussi les autres chrétiens, les autres disciples, s'ils sont jeunes dans la foi. Donc, dans ce but, tout croyant qui contribue à la maturité d'un autre a besoin de se motiver. Et nous avons tous besoin de se motiver les uns les autres, surtout que c'est la rentrée. Les enfants ont besoin de se motiver. Et j'ai lu sur Facebook une cousine qui écrivait « Moi aussi j'ai besoin parce que je manque de sommeil, parfois je stresse. » C'est la rentrée même pour les parents, en quelque sorte. Donc c'est une bonne période du moins pour avoir cette motivation, même dans le Seigneur, à travers cette lettre. Prenons tout de suite donc dans 2 Timothée 1, versets 1 à 9 pour la section de cette étude ce matin. Lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 1 à 9. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est la parole de Dieu. Donc je vous donne un plan pour cette étude. Bien sûr, c'est un plan parmi bien d'autres. Dans un premier temps, nous allons réfléchir sur les différentes raisons de motivation d'un père spirituel à son fils bien-aimé. Les différentes raisons de motivation. La motivation annoncée par la promesse de la vie, la motivation par la salutation, l'intercession de l'apôtre Paul et son affection, la motivation par le rappel du service fidèle des prédécesseurs, de la grand-mère, de la mère de Timothée. Donc, c'est les différentes raisons d'un père spirituel à son fils bien-aimé. Et dans un deuxième temps, on peut voir aussi la motivation dans la fidèle transmission de la foi sincère, de génération en génération. Et en troisième lieu, on peut voir une motivation pour l'Évangile, motivé pour l'Évangile, sans aucune honte, même dans la souffrance en prison. Voilà les trois réflexions que nous pouvons songer pendant ce moment qui suit. Donc, dans ces premières lignes de l'apôtre Paul à Timothée, nous voyons le cœur bienveillant d'un apôtre même en fin de sa carrière, en train de motiver et de raviver la flamme du don spirituel, de son fils spirituel. Êtes-vous ce matin un peu dans le découragement? Il est possible que ce matin, il y a des personnes qui sont dans les larmes, attristées par une épreuve, abattues ou déçues par une circonstance, incompris par vos amis. Alors sachez que vous n'êtes pas seul. Dans cette lettre, nous avons un homme qui s'appelle Timothée, un jeune pasteur même. Et vous êtes parmi d'autres avec le Seigneur, avec ce jeune pasteur, à ne pas nous laisser abattre par cet état d'esprit du cœur, mais plutôt à nous motiver à aller de l'avant. Donc la motivation annoncée par la promesse de la vie. Dans le premier verset, nous lisons « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. » Souvent dans une telle ou telle phase de la vie, ce qui manque à tous, c'est cette motivation. On a besoin de nous motiver. Et même pour ceux qui veulent travailler, la première chose qu'on vous demande, non seulement votre CV, mais on vous demande aussi une lettre de motivation. Est-ce que vous êtes motivé à travailler avec nous? Vous demanderez votre futur employeur. C'est précisément ce dont l'apôtre, qui est bien conscient, qu'il écrit au crépuscule de sa vie. Il est dit de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il n'éteint pas le lumignon infime. Jésus-Christ n'éteint pas le lumignon infime. Parfois, dans les phases de la vie, dans certaines situations de la vie, on cherche une lueur infime d'espoir, un signe de vie. Et Paul, il est en train de commencer cette lettre en disant qu'il y a une promesse de vie. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé dans notre famille, dans le cercle familial. J'ai une famille du côté de ma mère, du moins une bonne partie installée en France, avec 27 cousins, si mes souvenirs sont bons, du côté de ma mère. Et récemment, il y a une cousine qui a voyagé depuis l'Inde, elle vit en Barcelone. Elle a transité par Paris, une nuit de sommeil chez son frère. En reprenant le bus, en faisant une escale à Montpellier, il y a eu une absence d'esprit et elle s'est garée. Elle s'est garée un jour, deux jours, disparue. Donc vous imaginez un peu la tension pour sa belle-sœur qu'il a laissée dans la gare routière, les cousins, cousines, les neveux, nièces, moi-même. Et nous étions en train de chercher un espoir dans cette situation et cette épreuve très difficile. Une personne disparue. Et tout ce qu'on se demande, les premières questions qui se posent, est-ce qu'il y aura un signe de vie au bout d'une semaine? Au bout de 10 jours? Au bout de 2 semaines? Quel est le signe de vie qui peut apparaître? Et ils ont sillonné des neveux dans toute la ville de Montpellier. 10 jours, 15 jours s'écoulaient, toujours pas. Et la seule chose qu'on cherche, c'est « Seigneur, donne-nous un signe de vie. » Surtout qu'elle avait fait une confession de foi. Et je priais et le Seigneur dit « Nul ne ravira mes brebis de ma main. » Donc nous avions de telles promesses de Jésus-Christ dont nous nous sommes accrochés dans cette situation, dans cette épreuve dure. Cette semaine, nous avons eu vraiment la joie. Donc le mardi de cette semaine, elle a eu la présence d'esprit à partir d'un hôpital où elle était admise après pratiquement 3 semaines On ne sait pas exactement quand, comment elle a été arrivée à l'hôpital, mais elle a eu la présence d'esprit. En plus, des valises étaient perdues, etc. Donc, situation très difficile. Et elle a eu la présence d'esprit d'appeler sa sœur. Voilà un signe de vie. Donc, on l'a retrouvée là, maintenant par la grâce du Seigneur et nous glorifions le Seigneur. Elle est saine et sauve au sein de sa famille. Elle est rentrée à Barcelone. Donc, c'est ce que l'apôtre, selon l'autorité de Jésus-Christ, qu'il reçoit et qu'il est en train de communiquer selon la volonté de Dieu, le Père, et qui annonce dans la première phrase même de cette lettre la promesse de la vie à son fils bien-aimé. Si vous recevez une lettre d'embauche, si vous recevez une promesse de vente, si vous avez une promesse d'un père ou d'une mère comme quoi vous allez recevoir le cadeau le temps mérité selon vous, le temps attendu, quelle sera votre joie ? Nous, en tout cas, dans cette situation, quand on a vu qu'il y avait un signe de vie, on était dans la joie. Et c'est un peu cette joie aussi que Paul exprime dans cette lettre que nous avons lue. Et c'est ce que Timothée aussi va recevoir, cette joie en recevant cette lettre et ce que produit cette lettre. Dieu promet la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est le message fil du conducteur de Paul dans toute sa vie. Et c'est même le leitmotiv de l'apôtre choisi par Dieu. C'est le messager qui était envoyé de Dieu pour annoncer une telle promesse de vie, non seulement aux Juifs, mais aussi à toutes les nations. Paul s'approche du jour de son exécution, mais voici un cri de motivation profonde qui émane de son cœur. Dieu annonce la promesse de la vie en Jésus-Christ. Je ne sais pas, dans cette église, il y a peut-être même ce matin, dans cette assemblée, quelqu'un qui n'a pas goûté encore cette vie promise par Dieu en Jésus-Christ. Il est possible que vous avez beaucoup entendu parler de Dieu, vous avez été dans une église, mais sachez que ce n'est pas une promesse d'un politique. Ça ne se volatilise pas. Ce n'est pas une promesse qui s'envole. Ce n'est pas une promesse comme un homme qui dirige une entreprise, qui promet tellement de choses, mais au bout de quelques années, sa vision est perdue. Tout cela, c'est comme une vapeur d'eau suite à une ébullition d'émotion. Là, il s'agit de Dieu, le Fils, qui a donné sa vie comme rançon pour mes péchés et pour tes péchés. Donc, que faut-il faire pour obtenir cette promesse de la vie, pour obtenir cette vie en éternité ? Me demanderez-vous, j'espère, pour recevoir cette promesse de la vie, qu'est-ce que je dois faire ? La Bible dit « Repentez-vous ». Repentez-vous de vos péchés, selon la conviction de l'Esprit Saint. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, dit la Bible, et vous serez sauvés. Dieu a tant aimé le monde, dit la Bible, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Demandez donc le pardon de vos péchés à Jésus-Christ. Et nous avons commémoré ce matin cette table de la communion, cette table où le Seigneur nous montre, nous a montré un exemple en donnant sa vie sur la croix. Et si vous n'avez pas goûté encore cette bonté de Dieu, cet amour de Dieu, cette vie en Dieu, eh bien c'est aujourd'hui le jour du salut. Dans le silence de votre cœur, vous pouvez prier. Ou dans votre chambre, même aujourd'hui, ce soir, vous pouvez prier et demander le pardon des péchés au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui a pris sur la croix nos péchés à nous tous. Il est mort, mais il est vivant. Comme nous avons médité ce matin, c'est l'agneau de Dieu qui revient bientôt, jusqu'à ce qu'il vienne, nous nous rappelant de sa mort expiatoire. Et il est ressuscité le troisième jour. Il nous annonce la vie, ce matin même, la promesse de la vie. Continuons avec cette motivation parmi les différentes raisons, la motivation par la salutation, l'intercession et l'affection de Paul. Ici, l'apôtre motive son fils spirituel par sa salutation. Alors, comment il salue ? Comment il le salue ? Comment il adresse ? Habituellement, Paul, dans ses lettres, il dit que la grâce et la paix. Ça, c'est les notions qui arrivent souvent. Mais ici, si vous remarquez dans ce premier verset, il dit que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 2. Que la grâce, la miséricorde qui s'ajoute, et la paix te soit donnée de la part de Dieu. Quel puissant encouragement qu'un Père céleste et le Fils de Dieu donne une telle grâce, miséricorde et paix que le monde ne peut pas donner. Le monde ne peut pas donner cette paix. Elle peut promettre une certaine paix, une certaine quiétude, mais pas celle que Jésus donne. Et d'ailleurs, le Seigneur dit « Je vous donnerai la paix que le monde ne peut vous donner. » Que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Si vous désirez motiver cette semaine même quelqu'un pour qu'il avance malgré une épreuve hebdomadaire de la vie, dites-lui que la grâce, que la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans notre église en pleine implantation, nous avons cette habitude de chanter un cantique final en fin de culte qui dit « Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie et dans l'amour. » Donc la grâce de Dieu dont Timothée jouit ici dans la justification, dans le pardon que nous n'avons pas mérité, que aucun d'entre nous n'avons mérité, que Dieu donne, accorde à celui qui a la foi sincère en Jésus-Christ. Et c'est cette grâce qui est une source pour motiver les chrétiens. Et c'est cette grâce qui nous permet de ne pas nous soumettre au péché, de ne pas obéir aux convoitises des péchés, puisque nous ne sommes plus sous le joug de la loi, mais sous la grâce de Dieu. La miséricorde est cette bénédiction qui mène une vie de délivrance. Dieu a eu pitié de nous et nous arrache de l'état misérable d'un passé que nous avons vécu sous l'esclavage du péché. Et quant à la paix, c'est la sérénité, la quiétude qui émane seulement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous réconcilie avec Dieu le Père. Malgré toutes les adversités, malgré les lots d'épreuves que nous devons vivre pour certains, dures pour d'autres, pour cette semaine, eh bien sachez que la paix de Dieu est promise. Donc c'est une fois exprimée une telle salutation que Paul parle de sa gratitude à Dieu à cause de son souvenir de Timothée dans toutes ses prières. Comme nous lisons, « Nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Est-ce que notre vie de prière est imprégnée de tels souvenirs spécifiques, particuliers, pour un tel ou telle personne, tel ou tel enfant spirituel, un tel collègue ou un tel étudiant ou étudiante, une amie ou un ami ou un voisin? Dans un monde tellement oublieux, dans la génération de zapping, nous avons tous connu ça, on est dans une génération qui zappe, malgré nos agendas chargés d'affaires dans le travail, c'est un puissant encouragement de savoir, et c'est une puissante motivation, de savoir que chacun soit inclus dans les prières d'un tel frère ou sœur en faveur de lui, d'une manière régulière. Donc, une application peut-être pour cette semaine, pour chacun de nous. Prenez une personne en spécifique qui vous est à cœur, pour qui vous allez prier probablement chaque jour. Et à force de prier pour cette personne, vous lui dites, si possible, si vous pouvez l'exprimer, qu'il s'agisse d'un croyant ou d'un non-croyant, vous êtes en train de démontrer que votre souvenir pour cette personne est important. Et vous vous rappelez, je me rappelle de cette personne et je motive cette personne à travers même ma prière. Ça peut être un conjoint, ça peut être une amie, un ami, un frère ou une sœur dans l'église. Et c'est motivant pour avancer. L'apôtre se rappelle ici les larmes de Timothée aussi, de leur dernière rencontre. Ici, il démontre l'affection. Donc nous avons vu cette motivation, cette intercession, et cette affection de Paul se voit dans cette lettre où il parle, il se souvient des larmes de Timothée dans leur dernière rencontre. Vraisemblablement, ce sont des larmes qui sont similaires aux anciens d'Éphèse. Je ne sais pas si vous avez lu ce passage, on peut le lire dans Acte 20. Cherchez avec moi dans Acte 20, 26 à 38, où Paul fait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse, où Timothée a été envoyé pour réorganiser l'église. Dans Acte 20, 36 à 38, il est écrit « Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient. affligés surtout de ce qu'il avait dit qu'ils ne verraient plus son visage, et ils accompagnèrent jusqu'au navire. La Bible est un livre rempli d'émotions aussi. C'est tellement émouvant que des hommes pleurent parce qu'ils ne vont plus se voir. Et c'est tellement motivant qu'un pasteur pleure pour les fidèles, qu'un pasteur pleure avec d'autres pasteurs parce qu'ils ont ce fardeau de transmettre l'évangile, parce que nous avons ce fardeau de transmettre l'évangile qui donne la vie à un monde en plein décadence, dans le péché, vers l'enfer. Et combien il est important de prier pour les autres avec larmes. Donc lorsque l'apôtre leur signalait qu'ils ne verraient plus leur visage, tous fondirent en larmes. Habituellement, on dit que les hommes pleurent peu ou pas, mais en tout cas, la Bible est remplie d'hommes qui pleurent. Jésus pleura, dit la Bible. Et ailleurs, Paul, il va parler de ceux qui sont ennemis de la croix, et en pensant à eux, il évoque aux Philippiens qu'il en parle avec pleurs, avec larmes. Et j'en parle encore maintenant, va-t-il écrire, en pleurant. Et Timothée a pleuré. Donc combien il est important pour qu'un pasteur puisse avoir cette même affection de l'apôtre Paul, à l'exemple de Paul, même affection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pleure avec d'autres frères, d'autres sœurs, d'autres hommes de Dieu. Donc cela motivera Timothée, même si très probablement, vraisemblablement, Paul ne verra pas non plus le visage de Timothée, parce que son exécution sera imminente. Troisième raison différente, la motivation par le rappel du service fidèle des prédécesseurs. Les ancêtres de Paul, il est question de Loïs ici, la grand-mère de Paul. Il est question ici de la mère de l'apôtre Paul. Donc tous les prédécesseurs, ceux qui étaient derrière nous, dans le passé, est une motivation pour nous, pour servir Dieu, pour servir avec une conscience pure. Et ce que nous devons nous rappeler ici, c'est que notre foi n'est bâtie ni sur une légende, ni sur des mythes, mais la vérité transmise de la Bible va de génération en génération. Et c'est comme ça que nos ancêtres ont servi Dieu, de génération en génération, depuis les patriarches jusqu'aux apôtres, historiquement reconnus. Ce sont des hommes qui ont vécu dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire de l'Église. Donc un autre élément que l'apôtre Paul rappelle ici à Timothée est la fidélité dans le service de ses prédécesseurs. Ses ancêtres ont servi Dieu. Quant à Timothée, il a une grand-mère et une mère qui ont la foi sincère et qui ont transplanté, qui ont mis une foi sincère dans le cœur de Timothée aussi à travers leur service. Et Paul il dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure. » Donc Paul, loin de se plaindre de ces conditions déplorables et désagréables dans la prison, certainement ce n'est pas comme la prison de Fleury-Mérogis en France, ce n'est pas forcément une prison qui a tous ses conforts aujourd'hui. Paul il était dans une situation vraiment désagréable avec tous les désagréments, mais il évoque son service ici. Le mot ici dans le grec indique un culte sacerdotal, là très haut. Nous lisons à propos de ce service dans sa défense contre les accusations des Juifs. Ça, on le lit dans Actes 24. Il dira « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. » Et plus tard, dans Philippiens 3, il dira, il indique « Qui sont les vrais croyants ?» Et c'est le même mot qu'il va utiliser. « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte. » C'est nous qui rendons à Dieu notre culte. C'est nous qui servons. Ce matin, nous sommes en train de servir Dieu. Certes, nous sommes assis, mais nous sommes en train de servir. Nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes en train de laisser le Seigneur faire son œuvre en nous afin que nous puissions travailler pour lui. Donc, votre réveil de ce matin n'est pas du tout vain. Nous rendons, nous qui sommes incirconcis, un culte raisonnable. Nous rendons à Dieu ce culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus-Christ et nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. Donc à chaque fois que nous sommes effleurés par des pensées de découragement dans notre marche et dans notre service pour le Seigneur par l'Esprit de Dieu, là où il nous place, dans le lieu de travail, dans le foyer, dans une université ou dans une école pour certains, laissons-nous motiver par nos ancêtres qui ont servi Dieu. Déjà en France, ces derniers siècles, si on on observe, il y a eu des hommes et des femmes qui servent Jésus-Christ et qui sont multipliés, plus qu'il y a 50 ans. Parce que nos prédécesseurs ont servi. Déjà de nos contemporains, il y en a certains qui sont encore vivants. Donc laissons-nous motiver par ces exemples d'hommes et de femmes, par nos ancêtres qui ont servi Dieu, par l'apôtre qui rend un culte par l'Esprit de Dieu. Il inclut païens comme juifs en disant c'est les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte. C'est nous qui servons Dieu par l'Esprit de Dieu. Et selon ce cœur circoncis, l'apôtre il précise qu'il sert avec une conscience pure. Servir ou faire des choses à notre manière, à ma manière, à la manière de la chair, c'est une chose. Parce que beaucoup de gens servent. Ils font du travail. Ils font même beaucoup de travail. Mais est-ce que nous servons Dieu par l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous servons Dieu avec une conscience pure? Une conscience purifiée dans ce service? Et il écrit dans Hébreu, le sang de Jésus-Christ qui purifie notre conscience des œuvres mortes. Dieu, par son sang, nous purifie notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Encore ailleurs, il fera appel au témoignage de sa conscience, l'apôtre Paul, contre les fausses accusations à Corinthe. Il dira « Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Donc servir Dieu, oui, et pas de n'importe quelle manière, mais d'une manière selon Dieu, selon une conscience pure devant Dieu. Donc laissons-nous purifier, comme nous nous sommes rappelés ce matin de cette table, dans cette table, de cette coupe qui est la nouvelle alliance au sang de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ. Et chaque fois que nous prenons, que nous approchons de cette table, nous devons nous rappeler que ce sang purifie notre conscience des œuvres mortes, afin que nous soyons libérés de tout sentiment de culpabilité, afin que nous soyons libérés de toute motivation impure, afin que nous soyons complètement lavés, purifiés de toute intention impure. Donc c'est avec cette conscience pure que l'apôtre Paul sert, nos prédécesseurs ont servi, ses ancêtres juifs ont servi, ceux qui étaient croyants dans l'ancienne alliance déjà, Loïs, Eunice, la grand-mère et la mère de Timothée, en service, cela nous motive dans cette phase de la rentrée. On va rapidement voir aussi ces deuxièmes réflexions, la motivation dans la fidèle transmission de la foi sincère de génération en génération. Ce n'est pas une nouvelle méthode que l'apôtre Paul il est en train de communiquer ici. Donc quand il parle de Timothée, de sa grand-mère et sa mère, en lesquelles il y avait la foi, et il qualifie même plus tard d'une foi sincère, et qu'ils vont transmettre à Timothée, c'est pas une méthodologie de travail qui est aujourd'hui appliquée dans beaucoup d'entreprises. Il y a toujours un mentor, quelqu'un qui prend les stagiaires et les guide, il leur explique, il leur donne un mode opératoire. Eh bien, la Bible révèle déjà cette méthode, que cette foi se transmet de génération en génération, cet enseignement se transmet de génération en génération. Et les Juifs, ils savaient très bien. Les Israélites, ils étaient conscients de cette méthode. Je vous invite à lire Psaume 78. Souvent, on utilise ce passage pour commencer un travail parmi les enfants. Du moins, j'ai été plus touché par ce passage pendant cette formation que j'ai eue pour conduire des classes des enfants il y a plusieurs années. Et c'est dans Psaume 78 qu'une sœur qui nous a formés pour enseigner les enfants, elle a mis en avant ce passage. Psaume 78, versets 3 à 6. « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future. » Futur, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Voilà, les Israélites, ils savaient très bien. Si dans cette sombre et triste histoire des années 39-45, Adolf Hitler, il a utilisé les jeunesses pour inculquer ses pensées si mauvaises, si criminelles. Et s'il a pris les enfants, il a compris. Il a compris que les enfants sont des trésors. Ce sont des cœurs sensibles où on peut endoctriner toutes sortes de choses. Et là, le Seigneur, il dit dans sa parole que les enfants ont besoin d'être transmis cet enseignement divin, cet enseignement de Dieu, cet évangile de Jésus-Christ, cette foi sincère. Donc nous pouvons dire beaucoup plus sur ce point de la transmission de cet enseignement de génération en génération, commençant déjà dans le plus bas âge de nos enfants, des enfants de nos églises. Mais le temps me manque maintenant, mais probablement nous reviendrons dans la semaine ou les semaines à venir sur cet aspect quand nous pourrons étudier le chapitre 2 aussi, dans cette transmission, que l'Église ne doit pas négliger. L'Église doit veiller dans cette vision à transmettre cet enseignement aux jeunes disciples qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, et l'Église doit transmettre cet enseignement pour former de jeunes pasteurs. Dès lors qu'on perd cette vision, l'Église prend une déviation. Donc faisons attention à ce que nous puissions transmettre l'enseignement afin que cela puisse motiver les hommes et les femmes dans l'Église afin qu'ils prennent le flambeau. Donc après avoir évoqué autant de motivations, l'apôtre Paul va faire la transition que ces éléments sont des raisons suffisantes pour raviver la flamme du jeune pasteur Timothée. Comme nous avons chanté tout à l'heure, Paul il dit ici, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Autant de raisons, autant de motivations pour les chrétiens aujourd'hui pour raviver la flamme du don que chacun d'entre nous, nous avons reçu de Dieu pour le servir. Je vais ouvrir juste une petite parenthèse puisque nous sommes dans ce passage où il est question de la foi sincère. La Bible donne des adjectifs liés à la foi. Et ici, nous avons un bel adjectif qui parle de la foi sincère. Dans le verset 5, il dit « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui a habité d'abord chez ta grand-mère, Loïs, et ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Il est bon de noter cet adjectif que l'auteur utilise concernant la foi de la grand-mère, de la mère et de Timothée. Sans feinte, un hypocrypto, d'où le mot hypocrisie, c'est ça le mot d'origine. Sincère, une foi qui n'a pas de... c'est sans cire dans le sens de l'étymologie. Ainsi, la foi de Timothée, sa mère, sa grand-mère, évoquait une foi dans le Seigneur Jésus-Christ qui était une foi véritable. Et ailleurs aussi, dans Jude 20, nous avons une autre qualificatif de cette foi des chrétiens. Il est écrit dans Jude, verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Donc voilà comment la Bible qualifie la foi de nous, chrétiens. La foi sincère, la très sainte foi que nous devons transmettre. Pour finir, nous pouvons voir aussi que nous pouvons être motivés pour l'Évangile sans aucune honte. Aujourd'hui, en France du moins, l'Évangile est bafoué dans tous les sens. Dans le sens qu'il y a des faux évangiles, il y a presque, on peut dire, un nouveau Jésus qui est prêché. Mais ce que l'apôtre Paul il subit ici, c'est pour la vraie Évangile. Il est motivé pour cet Évangile qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et il n'avait aucune honte, même dans la souffrance, en prison. Dans le verset 8, nous lisons « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Dans cette lettre de motivation où l'apôtre Paul ranime la flamme du don de ce jeune pasteur Timothée, probablement découragé ou attristé ou même fatigué à cause de ses problèmes de santé, l'apôtre il le motive à souffrir sans aucune honte pour l'Évangile. C'est un peu paradoxal, mais il dit « souffre avec moi pour l'Évangile ». Il le répète trois fois dans ce chapitre. Verset 12, nous pouvons lire aussi qu'il n'y ait pas cette honte, qu'il n'y ait pas cette honte de prêcher l'Évangile. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et verset 16, il parle de Onésiphore qui n'avait pas honte. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. alors qu'il s'apprête pour être exécuté comme un criminel, comme s'il a commis un acte mauvais, il est en train de dire « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » Et Onésiphore n'a pas eu honte de Paul. Et c'est un modèle de collaborateur. C'est un modèle de chrétien qui n'a pas du tout cette réticence de parler de Jésus-Christ. Est-ce que le fait de ne pas être accepté à l'école, ou aux universités, ou dans votre travail, ou votre foyer, à cause de l'Évangile, cela nous démotive, ou au contraire, nous sommes résolument décidés à dire « Je n'ai pas honte de rendre témoignage de Jésus-Christ, mon Seigneur, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a arraché de ce siècle présent, et je n'ai pas honte de ce Seigneur crucifié, je n'ai pas honte de dire qu'il est ressuscité. » Disons-nous à notre entourage sans honte que nous suivons l'enseignement des apôtres selon la Bible, et que certains étaient même emprisonnés et exécutés et tués comme des criminels pour avoir prêché Jésus-Christ crucifié. Donc tout cela fait partie de notre témoignage que nous rendons à nos contemporains, afin de les arracher du siècle présent. Donc Paul dit clairement « Je n'ai pas honte de cet évangile ». Donc il est possible que dans cette époque contemporaine, certains chrétiens avaient eu honte de Paul parce qu'il était dans une prison. Et s'identifier avec un homme emprisonné a peut-être suscité une honte. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que ce sont des hommes vaillants qui ont transmis la foi, même au prix d'être emprisonnés, même au prix de leur vie. Donc partageons cet évangile de Jésus-Christ, cette souffrance que même les apôtres ont subie. Souffre avec moi pour l'évangile. Quelle souffrance serait comparable à celle de Jésus-Christ, notre Seigneur, et de son apôtre ? Est-ce que la souffrance de la séparation de ceux qui nous ont été proches à cause de l'Évangile ? Est-ce que c'est la souffrance d'être mis de côté, d'être mis à l'écart familial, parce que nous avons cru et nous avons confessé notre foi en Jésus-Christ ? Est-ce que ce sont la souffrance des moqueries, des railleries ? Souffre avec moi pour l'Évangile. Donc cette semaine, soyons motivés. C'est probablement peut-être une motivation paradoxale, mais la Bible, elle dit « souffre avec moi » parce que c'est une motivation qui non seulement parle d'une souffrance, mais pas mondaine, misogène, mais plutôt une souffrance par la puissance de Dieu. Parce que Dieu est en nous et c'est cette puissance qui nous motive dans cette souffrance même pour l'Évangile. Dans le verset 9, nous lisons que Paul est motivé par l'annonce de l'évangile, du salut et la vocation de Dieu selon son dessein. Nous allons finir avec ce verset. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Probablement la semaine prochaine, nous pourrons davantage y revenir dans ce verset et voir la juste compréhension de la grâce de Dieu dans la Bible et selon l'apôtre Paul. Mais ici, on voit qu'en effet, c'est une motivation puisque ce n'est pas n'importe quelle nouvelle. Là, la nouvelle que nous avons, c'est une bonne nouvelle. Même une très très bonne nouvelle. C'est la nouvelle de Dieu qui est la puissance pour quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ. Donc le fait de savoir que le Seigneur est encore à l'œuvre en sauvant, il sauve encore aujourd'hui, il sauve même en France, comme il sauve dans le monde entier, et qu'il adresse encore une sainte vocation par notre très sainte foi, par notre foi sincère, non à cause de nos mérites, ni à cause de nos bienfaits ou de nos œuvres, mais selon son dessein, selon sa grâce, donnée en Jésus-Christ. La grâce de Dieu est accompagnée par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, quand il vient avec la grâce de Dieu. Nous ne pouvons jamais dissocier Jésus-Christ. Nous ne pouvons jamais dissocier Dieu avec la grâce. Il précise le temps, elle nous a été donnée dans le passé, dès les temps éternels, avant même les temps éternels, en Jésus-Christ. Donc nous y reviendrons certainement dans la semaine suivante, Dieu voulant, sur la compréhension de l'apôtre Paul, sur la grâce de Dieu aussi. Donc récapitulons rapidement tout ce qui peut nous motiver pour cette semaine. C'est la rentrée, les enfants vont à l'école, on va les motiver, et voilà tout ce que le Seigneur nous promet. Il nous promet la vie. Et c'est une nouvelle vie, c'est un nouvel apprentissage dans le Seigneur que nous pouvons entamer cette semaine même. Voilà pourquoi nous pouvons être motivé avec toutes ces raisons, en saluant les autres, en disant que la grâce de Dieu, que la miséricorde de Dieu, que la paix de Dieu soit sur toi, en intercédant en faveur d'une personne spécifique, comme Paul l'a fait avec Timothée, en se souvenant de la personne, si possible nuit et jour, en lui démontrant notre affection, même passant un moment dans un parc ou dans un lieu à prendre un café, et en démontrant notre affection, si besoin, même dans les épreuves, dans les larmes, avec ceux qui souffrent de sortes de maladies. Voilà comment nous pouvons motiver les uns et les autres. Nous pouvons aussi, on a vu, motiver pour l'Évangile. Motiver en annonçant l'Évangile, sans aucune honte, dans la souffrance, dans l'emprisonnement aussi, nous pouvons voir que l'apôtre Paul communiquait cette puissance de l'Évangile. Et nous avons vu aussi que nous pouvons être motivés en nous rappelant de nos prédécesseurs, ceux qui nous ont transmis la foi, vos pasteurs, nos conducteurs et nos parents pour certains. Et en se rappelant de tous ces saints glorifiés, même de ceux qui sont morts, nous sommes motivés à aller de l'avant pour cette semaine, pour les mois à venir et pour les années à venir. Que le Seigneur nous encourage, nous fortifie dans sa grâce. Prions tout de suite. Seigneur, merci pour l'attention que nous avons eue, cette considération que nous avons eue à travers cette lettre qui nous motive. Oui, c'est la rentrée, Seigneur, et nous savons que les enfants commencent l'école. Pour d'autres, nous commençons notre travail. Et pour encore d'autres, leurs écoles ou leurs universités. Seigneur, nous te remercions pour cette parole qui nous motive, pour toutes ces raisons que tu nous as laissées, afin que nous puissions puiser toute la source en toi, dans ta grâce, dans ta miséricorde, dans ton amour. Et tu ne nous donnes pas un esprit de timidité, comme nous avons lu dans cette épître, dans ce passage, mais tu nous donnes un esprit de force, de sagesse et d'amour. Seigneur, nous prions que tu nous l'accordes en ce jour même, dans cette semaine même de la rentrée, la force, la sagesse et ton amour, et que nous puissions être tes enfants, afin que tu sois glorifié et que ton Fils soit glorifié en nous et à travers nous. C'est en son nom, au nom de Jésus-Christ, que nous te prions, Père céleste, pour ta seule et unique gloire. Amen.